Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Et on se retrouve dans un tout petit instant avec mes débatteurs pour commenter l'actualité. Test, est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair? Vous avez certainement entendu Olivier Véran, vous venez de l'entendre dans le journal. On va devoir vivre avec le virus. On va revenir sur Bridgestone. L'État ne peut rien faire. On vous pose la question. C'est vrai qu'on a entendu des indignations, c'est inacceptable. Mais que fait l'État? Que peut-il faire? Est-ce qu'il est impuissant? Et puis le voile à l'Assemblée nationale, des députés qui ont quitté la salle pour ne pas auditionner une femme responsable de l'UNEF qui était voilée. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 11h midi, nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Alexia Germont, présidente fondatrice du think tank France Audacieuse, qui n'a rien à voir avec le mouvement de Christian Estrosi.
Rien à voir, merci de le préciser, nous étions antérieurs.
Voilà, Thomas Porte, bonjour, vous êtes conseiller politique, vous avez publié Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17, bonjour à vous. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous gardez le masque, vous?
Oui, aujourd'hui. Oui,
d'accord. D'accord. Éric Vérac, bonjour Éric.
Bonjour.
Entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Très bonne lecture. Vous pouvez vous abonner à cette newsletter qui pose un certain nombre de questions et de stratégies. Petit tour de table avant de parler de Bridgestone, des tests et du voile à l'Assemblée nationale. Commençons par peut-être Alexia.
Oui.
Alexia Germont, vous avez un coup de gueule.
Non, j'ai un coup de cœur pour une actualité qui est quand même un peu plus légère, mais qui on en a bien besoin en ce moment. C'est pour rappeler que ce week-end, ce sont les Journées européennes du patrimoine, que ça s'inscrit évidemment dans un moment tout particulier pour l'industrie aussi du tourisme. Et il se trouve que nous avions eu au sein de France Audacieuse, grâce à Ariane Sauvage, qui s'occupe de la rubrique Regard décalé, nous avions eu l'opportunité d'interviewer Alexandre de Vogüé, qui est un des propriétaires du château de Vaux-le-Vicomte. Alors, Vaux-le-Vicomte, c'est quand même une très très belle, très, très beau patrimoine français à 60 km de Paris. Je vous invite vraiment à aller les soutenir parce que c'est à travers le patrimoine aussi que l'on peut aider après ces moments de Covid où ça a été extrêmement compliqué pour cette industrie-là à aller sur place.
Mais est-ce que c'est une bonne chose d'avoir maintenu ces journées du patrimoine? Là, on va rejoindre peut-être... Non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que ça...
à comprendre, on va revenir tout à l'heure sur Covid, etc. Mais que Roland Garros se tienne, que... Enfin, alors oui, il faut vivre avec le virus, mais
justement, c'est pour ça.
La contradiction de certaines décisions, moi, me laisse.
Oui,
un
et
peu
c'est
pantoise.
Justement pour ça qu'en fait, il faut faire preuve aussi
de responsabilité.
Donc, c'est le moment d'aller soutenir quand vous êtes dans les territoires où vous savez que vous êtes à l'extérieur, que vous pouvez aller visiter des jardins, du patrimoine, etc. C'est pas du tout la même chose que d'aller s'entasser dans des espaces qui sont confinés, en fait. Donc, je crois aussi que c'est le moment, en tout cas, de faire, nous, à titre de responsabilité individuelle, le choix de ce que nous allons soutenir. Par contre, vous posez la bonne question, c'est sur la lisibilité, finalement, de la politique qui a été globale.
Ouais. Matteo, ça rejoint un petit peu
coup de gueule, parce qu'effectivement, je n'ai pas compris la décision de la mairie de Paris d'organiser la Nuit Blanche, qui est sans doute un moment festif duquel nous avons tous besoin, dans le sens de faire la fête, pas de la Nuit Blanche. Moi, je suis plutôt critique parce que je trouve que c'est quelque chose de has-been et qui n'apporte vraiment pas grand-chose au panorama culturel. Il faudrait dépenser l'argent différemment pour faire vivre la culture. Mais je crois que effectivement faire organiser des manifestations comme celle des journées européennes du patrimoine a peu de sens en ce moment, parce que on voit que le virus circule. Que c'est vrai qu'on peut rester aussi à l'air ouverte, mais pour y arriver, souvent, surtout pendant les journées européennes du patrimoine, il y a des queues interminables. Malheureusement, moi j'estime que les Français sont globalement très disciplinés, parce que je vois beaucoup de gens avec le masque, beaucoup de gens qui respectent aussi des distances de sécurité, mais il y a aussi toujours les meilleurs de la classe, entre guillemets, et qui font exactement le contraire, qui s'infichent. D'accord, on est libre d'avoir son idée sur le masque ou pas le masque, c'est embêtant, etc. Mais si ça nous permet d'éviter d'être reconfinés même localement, moi je prends ça plutôt que rester enfermé chez moi.
Alors un petit tour de table sur ça, sur ces, sur ce qui vient d'être dit, Thomas Porte.
Oui, je pense que je suis assez d'accord avec Mathéo. Je crois qu'il faut aujourd'hui évidemment vivre avec le virus et il est parmi nous. Mais si on peut éviter d'avoir des rassemblements qui occasionnent des coagulations de foule dans des périmètres restreints. Moi, je prends les transports, par exemple, tous les jours. Mmh. C'est quand même si tout le monde a le masque, on est quand même serré, collé.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est particulièrement inquiétant. On voit qu'aujourd'hui, le taux de contamination, il augmente. Et moi, je lisais des papiers ce matin. Les syndicalistes hospitaliers alertent déjà sur la deuxième vague et le fait que les hôpitaux sont encore moins prêts, peut-être, qu'avant la première vague, avec du manque de personnel. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Je crois qu'il faut vraiment avoir à l'esprit qu'il faut prendre le moins de risques possible. Et ça reposera, à mon avis, la question de la gratuité des masques. Parce que si on veut protéger les gens, il faut offrir des masques à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de les avoir.
Oui. Éric Vérag.
Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement essaye d'habiller comme il peut et donner des airs sérieux à une politique qui est, non pas d'improvisation, mais de tentative de conciliation des contradictoires. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il faut se protéger pour ralentir la propagation de l'épidémie, dont on ne sait pas si elle sera aussi virulente qu'au printemps. En même temps, il faut faire vivre l'économie. En même temps, il ne faut pas désespérer les gens en les faisant entrer dans une société de science-fiction où tout est aseptisé et où il n'y a plus de contact humain. Et on voit bien qu'entre tous ces contradictoires, on navigue, on jongle comme on peut. Hein, et tout ça repose sur, en réalité, beaucoup de bon sens, de tâtonnement, d'approximation. Mmh. Moi, ça me va plutôt. Je pense que ceux qui ne veulent pas être contaminés, ils n'iront pas aux Nuits Blanches, aux Journées du Patrimoine. Ceux qui n'y allaient pas, ce qui est mon cas, parce que régulièrement, je trouve ça très saoulant de faire la queue pour voir des choses qu'on voit souvent d'ordinaire, ils n'iront pas non plus. Ils iront prendre l'air. Ouais.
C'est la responsabilité, vous en appelez la
responsabilité.
Petit
à petit, on est en train de s'habituer à vivre avec ce virus le moins mal possible. Et je crois qu'il faut se contenter de ces petites choses.
Oui, mais après, on va revenir sur le message politique, effectivement, qui est pour le moins qu'on puisse dire très peu lisible. Mathéo, on va en reparler tout à l'heure, puisqu'on va parler de l'intervention du ministre de la Santé hier. Je voulais qu'Éric nous fasse son coup de cœur ou son coup de gueule.
Oui, alors moi j'ai un coup de cœur qui est aussi un peu un coup de gueule, parce que un certain nombre de députés LREM et Gérald Darmanin d'ailleurs demandent des poursuites judiciaires, et je crois qu'elles ont été lancées, contre un rappeur qui s'appelle Freeze Corleone, et qui fait des chansons à l'éloge des SS d'Adolf Hitler, et qui dit ses paroles par exemple, c'est « Je rêve que mes enfants eux aussi vivent comme des rentiers juifs ». Et pour ce faire, je veux arriver déterminé comme un SS. Je pense qu'on a, sur ce genre de choses, ce genre de chansons, depuis longtemps franchi la ligne rouge de ce qui est tolérable. Et je trouve très bien qu'enfin on se dise que ce n'est pas parce qu'un chanteur se réclame de l'islam ou des quartiers populaires qu'il a le droit de violer et la liberté de la presse et l'ensemble des lois de ce pays en matière de lutte contre l'incitation à la haine.
Évidemment, c'est sûr que là, on assiste quand même à un tournant où, en tout cas, on assume plus une ligne, et qui est une ligne qui doit être en défense, évidemment, des valeurs essentielles de la République, et on en reparlera aussi certainement un peu plus tard dans l'émission, mais c'est très bien que vous ayez souligné cela.
Ça m'a fait ça m'a touché forcément parce que je ne tolère pas cette attitude légère qu'on a vis-à-vis de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme en France et en Europe fait encore des morts. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable de le traiter comme ça avec légèreté, laisser dire des choses de ce type. La Shoah a existé, malheureusement. Moi, j'ai été encore en janvier en visite au camp d'extermination de l'ancien camp d'extermination de Auschwitz. Je peux vous assurer que c'est toujours quelque chose qui est choquante, et on peut pas dire que ça n'a pas existé. C'est tout simplement bête.
Et il y a une loi surtout contre l'antisémitisme.
Il y a une loi.
C'est puni
C'est puni par la loi.
C'est parce que certains disent deux poids, deux mesures avec les musulmans qu'on, insigne, qu'on insulte à longueur de journée, etc.
Honnêtement, ce n'est pas vraiment la même chose parce que quand on a vu aussi les juifs en France sont souvent pris pour cible parce qu'il y a une espèce de stéréotype sur eux qui est terrible, qui oui. existe depuis bien avant le Reich, mais qui a comment dire, alimenté les fantaisies perverses du Reich et qui a porté à la Shoah, etc. Oui. Mais c'est impressionnant de dire que les Juifs sont riches, donc il faut...
Oui, non, puis les paroles, on a, j'en sais d'autres, on arrive dans des Allemandes comme des SS, arrêtons, tous les jours, rien à foutre de la Shoah, qui lui a vie, seigneur de guerre contre
d'ailleurs,
le Mollah.
D'ailleurs, c'est très offensif aussi vis-à-vis des Allemands, parce qu'il faut parler des nazis.
Je vais me permettre de compléter ce que dit Mathéo, parce que...
Et puis après, Thomas Porte.
Je pense qu'il faut surtout rappeler que, notamment dans l'ex-Yougoslavie, les musulmans eux-mêmes ont été massivement victimes de massacres de la part des nazis, ou des forces supplétives des nazis. Et donc, en réalité, quand on combat le nazisme, on ne défend pas les juifs pour attaquer les musulmans.
Non.
On protège aussi les musulmans. Rappelons que les nazis n'avaient pas une image particulièrement positive des peuples sémites auxquels appartiennent les arabes.
Absolument.
Donc, il ne faut pas opposer dans ce conflit les juifs et les musulmans, puisqu'en réalité, les nazis n'ont jamais défendu l'islam.
Non. Thomas Porte, sur ce rappeur et sur les plaintes qui ont été déposées contre lui.
On est toutes et tous révulsés quand on entend ce genre de paroles qui, en plus, ça vient d'être rappelé. La référence historique est absolument ridicule et je crois qu'il faut avoir une fermeté très importante à l'égard de toutes les chansons et de tous les appels à la haine, qu'ils soient à l'égard des juifs, sur le racisme. Il faut avoir une fermeté et ces paroles-là, elles ne sont pas autorisées dans la société. Je crois qu'elles méritent. Et la condamnation a été quand même assez unanime de la part des différents responsables politiques. Donc je crois que la justice doit faire son travail. On a des lois qui permettent de sanctionner ça. Il faut les mettre en œuvre et ne pas tolérer une seule seconde ces prises de position dans l'espace public qui sont insupportables pour les gens qui ont un passé, qui ont vécu ça, et même pour les gens qui, aujourd'hui, de notre génération, n'acceptent pas ce genre de propos.
C'est d'ailleurs un sujet plus général que l'on a, c'est qu'en fait, on a souvent l'arsenal juridique, mais qu'il n'est pas utilisé. Les...
Ouais,
donc quand après, vous avez la classe politique qui fait des grands moulinets pour expliquer qu'il faudrait prendre une loi, etc., non, la réalité,
commençons déjà par appliquer celle qui est
là. Et prenons les décrets d'application quand il y a besoin.
Il y a eu deux femmes âgées qui ont été tuées aussi parce qu'elles étaient juives, donc Mireille Knoll,
bien sûr.
Moi, j'avais un coup de gueule. Alors, on a eu le débat avec Juliette Ruffol, avec qui je prépare l'émission, à propos d'un dessin. C'est vrai que moi, je défends, comme beaucoup de gens, la liberté d'expression, liberté de la presse, liberté du dessin. On a eu Pierre Jacquemin cette semaine qui s'est indigné de la une de Charlie Hebdo qui présentait Jean-Luc Mélenchon. Il y avait Jean-Luc Mélenchon. Je me souviens plus. Enfin, ils étaient trois sur la une de Charlie Hebdo. C'était Kouachi, Plenel, Mélenchon. Et décidément, j'ai du mal. Et Tariq Ramadan. Et donc, avec un goupillon dans le nez, en disant on attend les tests. Et c'était Kouachi ou Charlie. Et donc, la revue Regard a publié hier un dessin que j'ai trouvé. Après, le dessinateur a le droit de faire ce qu'il veut, où il met en une Caroline Fourest, Zineb El-Razaoui et Philippe Val, les trois, peut-être pas Caroline Fourest, étant quand même sous protection policière, avec à côté un cimetière, avec les tombes de Sharp, Cabu, Tignoux, tous ceux qui ont été exécutés, et disant « c'est dur d'être aimé par des cons », reprenant la une de Cabu, qui avait fait évidemment couler beaucoup d'encre. Que ce dessin existe, c'est une chose. Que Jean-Luc Mélenchon le retweete, ça m'a profondément révulsée. J'étais aux obsèques de Charb, qui était un ami. Jean-Luc Mélenchon était là pour prendre la parole. Il était proche de Charb et qu'il puisse retweeter un dessin comme celui-là, j'ai trouvé ça particulièrement dégueulasse. Donc je voulais le dire. Je ne sais pas si vous êtes Thomas, qui veut réagir peut-être à ça.
C'est de toute façon extrêmement poignant parce que là on voit qu'il y a une frontière qu'ils ne font pas franchir. Et comme vous dites,
on dit qu'il n'y a pas de frontière dans les dessins. Donc
justement, il n'y a pas de frontière dans le dessin. Mais après, c'est à chacun de décider ce que l'on fait de l'existence de ce dessin. Et là où je trouve que vous avez particulièrement raison, Valérie, de pointer cela du doigt, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui vivent sous protection policière 24 heures sur 24. Et quand vous avez notamment les interviews, les dernières prises de parole de Zineb El-Razoui au micro, il me semblait, de mémoire, de Darius Rochebain notamment, vous vous rendez compte de ce que que c'est. Enfin, vous, vous prenez la mesure, finalement, du quotidien et de l'implication. Et on a de la chance d'avoir dans le paysage, dans le débat public, des gens qui prennent la parole et sont en défense de nos libertés fondamentales avec autant de... Autant d'implications.
Ouais. Et c'est plus facile de faire parler des morts que de faire parler le prophète. C'est moins dangereux.
C'est moins dangereux, exactement.
Une réaction peut-être à ça?
J'estime qu'en France, en tout cas, il y a toujours un peu les deux poids, deux mesures. Quand on dessine quelqu'un qui a un soutien médiatique, et moi je ne justifie pas, je le dis tout clairement, ce qui a fait Valeurs Actuelles, mais je me demande toujours si ça vaut pour quelqu'un, pourquoi ça ne vaut pas pour tout le monde, cette liberté d'expression. Je ne sais pas. De ce point de vue, j'ai toujours un regard étranger. Depuis l'étranger, je ne comprends pas encore la France.
Thomas ?
Moi, je connais que trop bien Pierre Jacquemin, qui est plus un ami.
Mais c'est un ami aussi. Il est là avec nous.
J'ai pas de soucis là-dessus, mais je crois que la liberté d'expression, il faut la faire vivre dans ce pays. C'est un dessin, il exprime un message. Que Jean-Luc Mélenchon le retweet ou pas, ça, c'est sa responsabilité à lui. Je ne suis pas là pour. Pour faire l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, mais je crois que par contre, on ne peut pas mélanger ce qu'a fait Valeurs Actuelles avec le dessin de Pierre Jacquemin. C'est deux choses totalement
différentes. C'est pas un dessin de Pierre Jacquemin, c'est un dessinateur qui s'appelle Gala et Pierre
qui travaille avec Regard. Mais c'est pas du tout la même chose que ce qu'a fait par exemple Valeurs Actuelles, donc c'est autre chose. Donc je crois que
la
liberté d'expression, elle doit vivre dans ce pays.
Oui, elle doit vivre. Moi, c'est pour ça que j'ai dit le dessin ne me plaît pas. Maintenant, il a le droit d'exister. Je m'interrogeais sur ce que fait Jean-Luc Mélenchon quand il retweet ce dessin
avec deux poids deux mesures, vous êtes en même temps quand même. Présent aux obsèques, et puis après vous mettez en avant, c'est ça qui...
Quand il y a eu par exemple le tremblement de terre en Italie, à Amatrice, Charlie avait fait pour moi, très offensive.
Très offensive.
C'est la liberté d'expression. Ouais. Après, moi, je ne suis pas un homme politique. Je peux dire en tant que citoyen, éventuellement en tant que journaliste, je n'aime pas ce type de choses, mais je défendrai toujours la liberté
de le dire
et que Charlie puisse dessiner tout ce qu'il veut.
Alors, on n'a pas entendu Eric Bérac sur le sujet.
Je crois, mais je le dis souvent sur votre antenne, surtout quand je suis face à Jacquemin. Je pense que Jacquemin, il appartient à une mouvance politique proche de la France insoumise, enfin, on le sait, voire de la France insoumise elle-même. Et on sait que la France insoumise espère essentiellement avoir des élus dans des quartiers ou des circonscriptions à forte population musulmane. Et donc, on voit bien qu'il y a une affaire de fonds de commerce. Je trouve amusant que des gens qui ont bouffé du curé pendant toute leur enfance et qui continuent à en bouffer, et des gens qui défendent l'égalité homme-femme, utilisent aujourd'hui un vote religieux extrêmement méprisant pour les femmes, et ils le font sans aucune forme de honnêteté et dans un cynisme parfait. Voilà. Je crois que personne n'a jamais douté du fait que Jean-Luc Mélenchon était parfaitement cynique et utilisait le fonds de commerce de la lutte des classes pour gagner des postes aux élections.
Mmh. Allez, on marque une petite pause et on revient. On va parler des licenciements à Bridgestone. Que peut faire l'État ? À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Elisabeth Borne.
Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Bridgestone, l'État en question. L'annonce a été faite donc de la fermeture de cette usine de pneus à Béthune. La Bridgestone appartient à une entreprise japonaise. 900 emplois pourraient être condamnés supprimés carrément. Après Bruno Le Maire, Elisabeth Borne a dénoncé à son tour au micro de Sud Radio ce matin la fermeture brutale de l'usine de pneus Bridgestone. Les emplois donc menacés. Elle a assuré dans le même temps que l'État ne laissera pas tomber les élus et les salariés. Et elle compte se rendre, c'est ce qu'elle a annoncé ce matin, on va l'écouter, se rendre sur le site lundi.
J'irai lundi avec ma collègue de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, pour rencontrer les élus, les représentants des salariés. Cette annonce, elle est brutale, elle est extrêmement choquante. Annoncer la fermeture d'un site qui emploie aujourd'hui 863 salariés sans aucune étude de scénario alternatif, ça n'est pas responsable. Il y a des outils très puissants qui sont mis en place par l'État, à la fois l'activité partielle de longue durée qui permet de protéger les emplois. Dans le cadre du plan de relance, il y a beaucoup de soutien pour moderniser les outils industriels. Donc c'est la responsabilité de l'entreprise de mobiliser tous ces outils.
Bon, blablabla, blablabla, blablabla. On a l'impression qu'ils viennent de découvrir, on a entendu Bruno Le Maire dire c'est inadmissible, c'est pas possible, etc.
Plusieurs choses. D'abord, sur la réindustrialisation au sein de France Audacieuse, c'est quand même le sujet que nous avons choisi de traiter en premier. puisque nous allons publier une étude qui sera certainement d'ici le 15 octobre, qui est une étude avec un prisme très société civile, c'est-à-dire justement avec une approche très entrepreneuriale. Bon. Moi, ce que je trouve, il y a plusieurs éléments de réponse à cela. D'abord, la réaction de la classe politique dans la globalité, je trouve que c'est... Plus ils vont faire, là encore, des annonces pour monter au créneau en expliquant combien c'est pas possible de faire ça, plus ils vont décrédibiliser la parole politique, et on n'a pas besoin de ça en ce moment, parce que la réalité, c'est que les moyens d'action aujourd'hui sont extrêmement limités. En revanche, plusieurs choses. D'abord, quand on donne au sein des régions des aides, il y a un vrai sujet sur lequel on peut se poser un instant, c'est quand même de savoir si on peut pas lier cela à des conditionnalités des aides. C'est-à-dire que, je prends un exemple qui va parler à tout le monde. Quand un citoyen lambda veut lancer un gîte rural ou des chambres d'hôtes chez lui et qu'il a le droit à une minime aide du département ou de la région, on lui demande d'assurer pendant 10 ans la continuité, la pérennité.
Il y a
10 ans, c'est quand même énorme par rapport au peu de visibilité qu'on a aujourd'hui dans notre monde. Donc, là, il y a un vrai sujet qu'il faut que les politiques traitent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point...
Pourquoi ne l'ont pas-ils fait ?
Alors, le deuxième point, qui est quand même important, c'est aussi par rapport au plan d'investissement qui est aujourd'hui mis sur la table. C'est vrai que l'entreprise doit pouvoir utiliser d'autres actions avant de fermer le site brutalement. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels l'État peut éventuellement, dans la situation de reprise de l'entreprise, essayer de travailler sur un repreneur. Voilà. Épargnons-nous les moulinets.
Thomas Porte, je suis désolée, j'ai oublié votre coup de gueule qui était celui-là justement.
Oui, c'était parce que c'est absolument, ça soulève le cœur de dégoût quand on voit ce genre de décision. Et puis c'est les ministres, ils font des annonces, ils semblent découvrir. Mais on a quand même dans le coin connu Continental, on a connu Goodyear, avec derrière des dizaines de suicides, des familles explosées, des maisons vendues. Donc on découvre pas ce genre de processus. Et quand on analyse un peu ce qui s'est passé avec cette usine-là, on voit qu'elle a délocalisé, par exemple en Pologne et en Hongrie, financée par l'Union européenne pour décrédibiliser l'entreprise. Et elle dit qu'elle n'est plus compétitive, mais elle a organisé cela elle-même. Et d'un trait de plume, elle se permet de faire basculer le destin d'un millier de familles dans la précarité et le chômage. Donc aujourd'hui, c'est ça, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. La conditionnalité des aides sur l'emploi et sur les transformations environnementales, elle doit être aujourd'hui posée. Et Elisabeth Borne, ce matin, dit on a un plan de relance. Mais quelles sont la conditionnalité des aides qu'il y a dans le plan de relance, par exemple, alors qu'on va donner des milliards d'euros à des entreprises sans se préoccuper, et on appelle à la responsabilité du patronat? Mais aujourd'hui, voilà ce que fait le patronat, par exemple. Il ferme une usine.
Oui, mais
Je termine là-dessus.
Pardon.
C'est absolument scandaleux. Et moi, je crois qu'il y a des solutions. L'État peut entrer au capital, on peut taxer les dividendes, on peut faire autrement, on peut avoir une stratégie industrielle pour réindustrialiser la France, ce qui n'a pas été fait depuis des années quand même. Donc aujourd'hui, on a des solutions. Le gouvernement ne les prend pas, il ne les a pas pris depuis 10 ans. Et c'est, moi je le dis, c'est vraiment, ça peut très mal finir, parce que la colère, elle est vraiment extrêmement poignante chez ces gens-là, qui du jour au lendemain ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Alors, c'est quand même ça la question.
Ce matin, j'entendais Gabriel Attal qui évoquait aussi la responsabilité des syndicats.
Ouais, je vais vous répondre.
Alors, vous allez répondre, je voudrais qu'on fasse le petit tour de table. Éric Vérague.
Oui, alors, évidemment, ce genre de débat peut durer des heures sans que personne ne se mette d'accord.
Non.
Moi, je trouve qu'il y a des injonctions paradoxales. J'ai des saintes nitouches qui disent « Ah, c'est pas bien de fermer l'usine », qui sont particulièrement drôlatiques, puisque rappelons quand même que lorsque Peugeot a proposé cet hiver de faire venir 500, 600 salariés polonais Peugeot au chômage en Pologne pour les faire travailler un peu dans l'usine de Douai, les syndicats et les gens qui disent aujourd'hui le départ de Bridgestone, c'est un scandale, ont dit « Il faut surtout pas faire venir de Polonais ». Et aujourd'hui, ceux-là même qui nous disent c'est pas bien de fermer Bridgestone, qui est une entreprise japonaise, sont aussi les premiers à dire, mais nous, en revanche, on trouverait bien que les usines françaises installées à l'étranger ferment et que les emplois reviennent en France. Alors, ça me fait toujours marrer de voir que les premiers qui sont pour le chômage à l'étranger sont aussi scandalisés quand ils voient que les autres font comme nous. Parce qu'en réalité, les Japonais, ils font ça. Ils disent, attendez, moi, je dispose mes usines comme je veux. Et mon sujet, c'est l'opinion publique japonaise, c'est pas l'opinion publique française. Nous faisons exactement la même chose. Et les gens de gauche qui dénoncent Bridgestone aujourd'hui font exactement la même chose sur les multinationales françaises. Ils ne s'occupent jamais de savoir si on sacrifie des emplois à l'étranger pour préserver des emplois en France. Ça a été un débat chez Renault d'ailleurs. Ouais. Donc là-dessus, à un moment donné, il faut être conséquent, il faut être cohérent avec ses positions et savoir si oui ou non, on est pour les relocalisations. Et si oui, à ce moment-là, on accepte que les autres fassent la même chose. Mais on ne peut pas être d'un côté pour les relocalisations en France quand ça nous profite et de l'autre être contre les relocalisations des autres quand ça ne nous profite pas. Ouais. On ne peut pas avoir une vérité un jour et une erreur le lendemain.
Ouais. Mathéo,
je m'interroge sur deux choses. D'un côté, effectivement, comme disait tout à l'heure Thomas Porte, il y a cette politique de l'Union européenne qui finance la délocalisation dans d'autres pays. Et non seulement, il ne faut pas oublier que l'Union européenne impose de ne pas créer des groupes trop puissants, trop délétères selon les règles de l'Union pour la concurrence. Ceci dit, et pratiquement, il y a la possibilité pour des sociétés non européennes de rentrer dans les marchés européens et de faire un peu la loi, parce qu'après, on leur octroie des privilèges fiscaux et tout. Alors qu'on pourrait avoir des synergies à l'intérieur de l'Union européenne et qui peut-être répondraient aussi à cette exigence d'un côté de tenir les emplois en Europe, non seulement en France, c'est vrai, mais en Europe. Pensez à l'histoire des chantiers navals de Saint-Nazaire. Il y avait eu le propriétaire qui était une société coréenne qui a fait faillite et qui, de mémoire, et qui en tout cas avait mis à mal les chantiers. Il y a eu Fincantieri qui est un groupe italien. Tout s'est bien passé, mais après, quand il y a eu Macron qui a été élu, il a mis en doute la signature qui avait été faite par son prédécesseur. D'accord, je veux pas faire l'italien de service qui défend les intérêts italiens, mais ce que je dis, il y a des synergies possibles en Europe. L'Europe nous les empêche. Oui. Parce que elle dit qu'il y a trop de concurrence.
C'est un peu plus nuancé que ça, parce qu'on voit bien aussi aujourd'hui que l'Europe, c'est grâce à l'Europe qu'on va avoir un certain nombre de financements qui vont nous permettre d'essayer de sur
c'est,
l'intelligence
c'est notre
artificielle.
Argent encore, hein.
Oui, non, mais bien sûr. Bah,
c'est notre argent et
mais
qui,
ce qui compte,
et que,
ce qui compte dire, c'est que notre argent soit bien utilisé. Or
oui,
là aujourd'hui,
chaque État pourrait d'ailleurs avoir sa politique et
mais
et
là, c'est sur un débat de fond. Où vous retournez sur l'Union européenne. Moi, ce que je veux simplement aussi souligner quand même, c'est que aujourd'hui, la France, quand vous regardez un schéma, mais très cru, vous voyez que la France est juste au-dessus de la Grèce en termes de part du PIB manufacturier, de la partie industrie dans le PIB. Bon. À 10,2 en 2017. C'est totalement insuffisant, mais c'est aussi le résultat, finalement, d'une politique industrielle qui a été totalement déficiente ces dernières années, quels que soient les gouvernements confondus. Donc aujourd'hui, si vous voulez, surtout...
Des frontières, au moins, à l'extérieur,
oui, mais
économique...
Là où il y a aussi...
C'est jamais trop tard, mais...
oui, on peut relever...
Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Oui, on peut relever, mais si vous voulez, ce qui est terrible à dire, mais que je crois que l'état du débat le mérite, c'est que vous avez des visions différentes aussi selon l'approche, qu'elle soit anglo-saxonne ou qu'elle soit française. Quand vous avez un certain nombre d'entreprises qui manifestement n'arrivent plus à être compétitives, la façon dont la France réagit, c'est de toujours essayer de les maintenir hors de l'eau. Or, vous avez d'autres pays qui ont fait des choix différents et qui en sont ailleurs aujourd'hui, qui est au contraire de mettre le paquet sur les entreprises qui risquent de percer. Avec une aide, quand on regarde aussi par rapport à ce qui a été fait au Japon et en Allemagne, en termes d'industrie, on ne peut pas raisonner sans regarder la façon dont la politique industrielle a été mise en place. Au Japon, où vous aviez le MITI, qui a été très proche, en fait, de tout le milieu d'éducation pour pouvoir avoir une recherche très puissante. Et puis, en Allemagne, avec, évidemment, un tissu industriel, tout le monde le sait, qui est bien plus développé que ce que nous avons, aussi parce qu'il y a une politique très forte au niveau des Länder. Ouais. Donc, c'est aussi une réflexion à avoir. Il suffit pas que Xavier Bertrand aille dire aujourd'hui que c'est pas possible, qu'on peut pas faire ça.
Lui, il fait sa campagne présidentielle. Ouais.
Voilà, il y a aussi des aides en matière de région, la région, le tissu industriel.
Alors, on va faire tourner la parole avec Serge Germont, mais sur la et ce que vous dites est juste et en même temps il y a la responsabilité aussi peut-être des syndicats. Vous vouliez me répondre sur le sujet, Thomas?
Non, parce que je vais réagir ce qui a été dit. Ouais. Je pense que quand on se bat pour maintenir l'emploi en France, on ne se bat pas en disant ben on va mettre des gens au chômage ailleurs. Parce que la question, elle pose aussi le statut du travailleur salarié en Europe et les droits. Quand vous avez des droits sociaux et des conditions de travail qui sont plus basses dans d'autres pays, forcément que ça va entraîner un dumping social. Et moi, je m'inscris en faux, je ne mets pas en concurrence les salariés. Et c'est pour ça qu'on se bat sur une harmonisation. Et le rôle des syndicats, il est toujours évoqué dans ces moments-là. Et on parle du fameux accord de compétitivité qui a été mis sur la table en 2019, qui a été refusé par les salariés. Et à l'époque, la direction de l'entreprise avait fait du chantage, puisqu'elle a dit, si vous le signez, je mettrai 21 millions d'euros à peu près d'investissement pour remettre à niveau l'usine, alors que dans le même temps, elle en met 140 en Pologne. Donc on voit bien là, ce qui est scandaleux, c'est que le fait qu'elle soit plus compétitive, c'est que ça a été organisé pour pouvoir derrière la fermer. Donc aujourd'hui, effectivement, quand moi j'entends les discours de Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, on a l'impression que c'est Che Guevara, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que ces gens-là ont fait depuis des années pour réfléchir à une politique industrielle, pour empêcher ces choses-là, et pour défendre les salariés? Donc aujourd'hui, ils sont absolument pas crédibles, et je crois qu'il y a des solutions. On a parlé de taxes aux frontières, de quotas d'importation, on peut réfléchir à des solutions comme ça.
Et on a aussi des solutions qui sont moins pénalisantes. Ouais. Je vous donne rendez-vous début octobre, on a beaucoup réfléchi, il y a des choses assez audacieuses.
On a un auditeur qui souhaitait réagir, bonjour. Je ne sais pas votre nom.
Bonjour.
Oui, on vous écoute.
D'accord. Eh bien, je voulais simplement rappeler à tous les gens aujourd'hui qui se formalisent pour les emplois supprimés, que à mon âge, j'ai 85 ans, j'ai vécu certaines expériences, trois expériences entre autres, dans trois maisons différentes en France. L'une a mis 600 personnes au chômage, la deuxième a mis 1200 personnes au chômage et la troisième a mis 1500 personnes au chômage. Et je vous parle de ça il y a quelques années quand même. Mmh. Personne ne s'est formalisé, c'est bizarre parce que on avait pourtant aussi des syndicats, on avait des gens comme ça, personne ne s'est formalisé. Ouais. Tout ça parce que à l'époque, c'était pas les Japonais, c'était pas les Allemands, c'était pas tout ça. C'était simplement le fils du patron, à la mort du patron, à la mort de son père, qui reprenait la succession. Et évidemment, comme il n'était pas du tout dans le coup, ce brave garçon, eh ben, il saccageait la société et on se retrouvait tous chômeurs. Parce qu'on était rachetés, et tous, les trois fois, on était repris par des sociétés étrangères. Mmh. Voyez-vous ? Mais c'était de la faute de l'héritage, en fait.
Oui. Bah oui, là c'était une autre situation, mais c'est vrai que moi ce qui me sidère, c'est l'impression effectivement qu'on a que les ministres découvrent l'eau chaude.
Surtout qu'il y avait, je me permets d'ajouter qu'une sénatrice communiste avait déjà interpellé le gouvernement en octobre 2019 sur la situation de cette usine-là, en disant attention, on est à l'os et on risque d'avoir une fermeture. Et le gouvernement déjà à l'époque avait répondu, on regarde, on revient vers vous et on vous donnera des informations, et rien n'a été fait.
Et en plus, si le gouvernement français va demander l'autorisation à Bruxelles de donner des aides pour soutenir un secteur, etc., on peut lui taper sur les doigts en disant non, c'est contre la concurrence.
Mais c'est en amont qu'il faut réagir. C'est pas au moment où.
Oui, sans doute. Mais
il y a aujourd'hui un problème social évident pour toutes ces familles directement touchées, mais surtout dans les territoires. Le problème, c'est tout le bassin d'emploi autour, parce que toutes ces familles-là, en fait,
qui est déjà sinistrée.
Qui est déjà sinistrée.
On va marquer une pause, on va parler du Covid. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Rien n'a été annoncé réellement en ce qui concerne les tests. A tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on va parler du Covid, de la Covid, c'est comme vous voulez, des tests, de la longueur de ces tests. Un mot quand même, parlons de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, où des députés ont quitté la salle, des députés LR et une élue La République En Marche, ont quitté jeudi une audition à l'Assemblée nationale sur le Covid pour protester contre la présence d'une syndicaliste de l'UNEF qui était voilée. Écoutez ce que disait cette députée.
La question est la suivante, c'est que nous, on est députés, c'est là que se font les lois de la République. Mmh. Quand quelqu'un arrive avec un hijab, bon, représentant une association étudiante, la question qu'on est en droit de se poser en tant que député est la suivante. Est-ce que cette personne, quelles sont ses priorités? À quelle loi cette personne se soumet-elle d'abord? Aux lois de la République ou à la loi de Dieu? Et forcément, ça trouble le message et forcément, on se pose la question.
Alors, est-ce qu'elle a eu raison? Est-ce qu'ils ont eu raison de quitter l'Assemblée nationale?
Moi, franchement, je le pense, tout en me disant qu'on raisonne à l'envers. C'est-à-dire que la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi la rapporteure, finalement, de la commission n'est pas, elle, à la manœuvre quand elle voit que vous avez un syndicat étudiant qui nomme comme porte-parole quelqu'un qui, manifestement, veut venir comme un message politique avec un hijab. Ça me paraît être la véritable question, parce que si tout le monde s'en va, finalement, on recule aussi. Mais... Oui. C'est bien de marquer le fait que, bien sûr, le règlement intérieur, ouais. On n'est pas comme dans une délibération au moment où on vote les lois. Bien sûr, le règlement intérieur ne le récriminait pas. Cela dit, je pense que c'est bien de réagir fortement.
Éric Vérague.
Oui, enfin, moi je crois qu'il y a deux sujets. En réalité, le premier, c'est pourquoi la rapporteure a cautionné le port d'un hijab au sein de l'Assemblée nationale.
Parce que c'est pas interdit, c'est ça. Enfin, je crois que c'est pas interdit dans le public. Après, en commission, je pense que la nuance est...
Je pense qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'il s'agissait d'une provocation politique, et elle l'a cautionné. Donc, ouais, je pense qu'il y a un sujet aujourd'hui chez ces gens-là. Mais il y a une deuxième question, plus fondamentale, c'est comment on en est arrivé à avoir un syndicat de gauche d'étudiants, très virulents à une époque sur les droits de la femme, etc., qui aujourd'hui est représenté par quelqu'un qui adopte une religion où le statut de la femme est minoré et qui adopte une posture religieuse manifeste, ostentatoire, de minoration de la femme. Comment on a pu créer ce vide spirituel en Occident pour que certains de nos jeunes se soumettent à ce qui est contraire aux combats qui sont menés en France par les progressistes depuis 200 ans. Et comment des progressistes peuvent aujourd'hui devenir des régressistes? Je crois que cette question de ce vide spirituel qui a été créé par la gauche est la vraie question qu'on doit se poser, parce que nous avons besoin aujourd'hui de reconstruire un esprit occidental, qui soit un esprit de libération et pas un esprit de soumission.
Alors la députée LREM, c'est Anne-Christine Lang, et la rapporteure s'appelle Sandrine Morche, et elle dit qu'elle ne laisserait pas ce faux débat autour du voile rentrer dans cette commission censée travailler sur l'avenir et le présent de la jeunesse dans une situation très compliquée. La jeune femme voilée s'appelle Mariam Pouchtou, et elle avait été à l'époque fortement critiquée par Marlène Schiappa. Alors Pierre, Thomas Porte.
Non, on est sur un débat, on le voit bien, qui cristallise. Moi, je crois que le règlement n'interdisait pas ça. D'ailleurs, on avait une députée communiste, Marie-Georges Buffet, qui, elle, était dans la salle et n'est pas partie. Mais ça me rappelle tristement ce qu'avait fait l'épisode Julien Oudoul, qui était un conseiller régional de l'extrême droite, qui avait fait la même chose. Donc, une fois de plus, on est en train de remettre sur la table les thèses qui sont prônées par l'extrême droite. Moi, ça m'inquiète particulièrement. Et je l'ai déjà dit ici, et je le redis.
Est-ce que parce qu'on est contre le voile, on est forcément extrême droite?
Je le redis ici, je partage assez ce que dit la rapporteure de la commission, c'est qu'elle dit que, pour moi, c'est un écran de fumée, et derrière, on va pas encore parler de la question des étudiants qui aujourd'hui subissent la crise du Covid avec des pertes d'emploi parce qu'ils sont pour la plupart salariés, la question des moyens à l'éducation, on a 1000 enfants qui dorment dehors avant l'entrée scolaire.
Mais la laïcité doit rester un débat qui nous appartient à tous.
Il y a une laïcité, vous avez une vision de la laïcité ouverte et une laïcité fermée.
Il y a un problème avec la loi, il y a un problème avec la loi, puisqu'effectivement, c'est autorisé. Maintenant, on voit bien qu'il y a la séparation entre espace public et espace privé, que normalement, dans les administrations, on n'a pas le droit de porter le voile.
Oui, là, vous êtes quand même au sein de la représentation nationale.
Il y a une nuance, en tout cas, moi aussi, quand j'ai vu passer la nouvelle, je me suis dit, c'est comme l'histoire du conseil régional de la Bourgogne-Franche-Comté.
Pas pareil.
Mais en effet, c'est pas pareil, parce que...
Elle est auditionnée.
Parce que, exactement, la dame en Bourgogne était dans le public.
C'est pas du tout pareil.
Et là, c'était auditionné. Moi, personnellement... je trouve qu'effectivement, il y a une laïcité à géométrie variable. J'ai entendu des représentants de la gauche dire que, par exemple, ah, mais alors, dans l'Assemblée, on a, par exemple, auditionné le cardinal machin plutôt que le rabbin machin, etc.
Oui, et il est venu habiter
c'est vrai,
comment
sauf que,
mais c'est un religieux.
Sauf que c'est un religieux, c'est une autorité religieuse. Donc, moi, si je vais à l'Assemblée nationale, je n'ai pas besoin de mettre ma croix chrétienne ici en la montrant parce que je suis tout simplement un citoyen si je suis auditionné par les parlementaires. Et puis, il ne faut pas oublier que l'autre réaction que j'ai entendue chez certains à gauche, c'était plutôt étonnante dans le sens quand on parlait de la polémique sur le sapin de Noël à Bordeaux. Déjà, le sapin de Noël, c'est pas vraiment un symbole religieux, mais quand même, ça a une connotation festive liée à Noël. Je laisse Monsieur Verrag expliquer toute la symbologie du sapin de Noël. Non, mais la chose que je voulais dire, c'est que la réponse de certains représentants de la gauche que j'ai entendu sur les plateaux, d'autres chaînes info, c'était « Ah, mais la laïcité, on conteste le fait qu'on ne met pas le sapin de Noël à Bordeaux, mais on laisse cette exception d'un Alsace, de Concordat, etc. » J'ai dit « Mais excusez-moi, mais ce n'est pas la même chose. Oui. Et pourquoi on doit dire « Ah, bah, le problème, c'est quelque chose qu'on fait avec l'Église catholique, qui d'ailleurs date de plus de 100 ans, alors que là, il y a une négation d'un droit aussi de faire fête, si on parle du sapin, ou bien du droit à être auditionné d'une façon neutre de la part de l'Assemblée nationale.
Ouais. Alors, on apprend à l'instant qu'Emmanuel Macron a décidé de reporter son discours sur le séparatisme qui était prévu initialement la semaine prochaine. C'est pas étonnant, c'est une fois de plus...
Courageux, mais pas téméraire.
Oui, c'est ça. Mais c'est quand même un discours qu'on nous annonce depuis je ne sais combien de temps. Ouais. Et visiblement,
c'est
compliqué.
Hein.
Très compliqué. Je voudrais qu'on dise quand même qu'on parle des tests et de la stratégie du gouvernement. Hier, c'est le ministre de la Santé qui s'est exprimé. Tous les indicateurs montrent une progression de l'épidémie. Il a annoncé une doctrine de priorisation des tests, donc pour des personnes qui ont une prescription médicale, qui sont symptomatiques ou alors des soignants. C'est encore une fois un peu du en même temps, même s'il a été un petit peu plus alarmiste que l'avait été le Premier ministre. Alors Thomas, vous vouliez intervenir.
La stratégie du gouvernement, elle est au fil de l'eau depuis le début de cette crise. Ils essaient, ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Aujourd'hui, on a des durées de résultats de tests qui sont absolument pas compatibles avec l'exigence d'isoler les gens pour couper le circuit de contamination. Voilà, donc je l'ai dit au début, on a des risques de deuxième vague ou pas, on ne sait pas. Mais les hôpitaux alertent sur l'état de saturation déjà et le manque de personnel. Et si on ne prend pas des mesures cohérentes, on va avoir une catastrophe. Et aujourd'hui, la communication gouvernementale, après le fiasco des masques, j'ai l'impression qu'on se dirige un peu vers le fiasco des tests. Et c'est quand même particulièrement inquiétant.
Oui.
Je constate seulement une chose. Je ne veux pas encore une fois dire qu'on a été meilleur de l'autre côté des Alpes, mais je constate que après l'été, en Italie, il y a beaucoup moins de contaminations. On est aux alentours de mémoire de 1500 par jour maximum, 1700 aussi. Oui. En tout cas, c'est une dixième par rapport à ce qui se passe en France. Ce que je ne m'explique pas, pourquoi ? Parce que les Italiens aussi ont bougé à l'intérieur de l'Italie, n'ont pas été toujours respectueux des mesures barrières, surtout dans certains endroits où on fait la fête, comme dans le nord de la Sardaigne, etc., où il y a eu des clusters. Mais globalement, j'ai vu aussi en y allant que, surtout dans les régions qui avaient été plus touchées, les gens avaient peur. Et donc, typiquement, par exemple, on ne rentre pas... tout le monde ne rentre pas au même moment au supermarché. On avait toujours le masque. Et parfois, il y avait même des amis à moi que quand on prenait un apéritif, enlever le masque seulement pour boire.
Ouais.
Même si on était à l'extérieur.
Et vous gardez,
le
masque. Oui, oui.
Non, mais je veux dire,
mais on voit que l'Espagne aussi a beaucoup de mal.
Je m'explique pas pourquoi.
L'Espagne a beaucoup de mal, mais... le gouvernement, on peut dire, fait ce qu'il peut, mais...
Là où on se rejoint, c'est qu'au niveau des tests, on est aujourd'hui... c'est une déficience réelle de la façon dont on est capable de répondre aux besoins, finalement, de la population. Avec au fur et à mesure une politique qui change, qui évolue pour essayer de suivre, mais on a l'impression que ça court après finalement les nécessités sanitaires. Bon, on est plus généralement, moi ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'on a été extrêmement, pendant le confinement, notre point quotidien, c'était aussi avec Olivier Véran, et on a quand même eu l'impression que pendant un moment, il a totalement disparu des radars. Enfin, je veux dire, on a eu un ministre de la Santé qui s'est retrouvé complètement en second en plan, première, dont on n'entendait plus les prises de parole. Ouais. Et là, à nouveau, depuis une semaine, on voit qu'il y a... une organisation à nouveau orchestrée d'une communication.
Oui, mais qui n'est pas tellement plus claire.
Ah non, qui n'est pas plus claire, mais où en tout cas, on voit à nouveau le ministre de la Santé qui...
Ça faisait un moment qu'on ne l'avait
pas vu. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait plus entendu.
Mais non, moi, je voudrais redire quand même, sur les tests, le test PCR est extrêmement douloureux.
Il est désagréable, mais pas douloureux. Enfin, ne faites pas peur aux gens.
Je vous assure que ma fille ne veut surtout plus le repasser.
Oui, mais votre fille, c'est pas
elle en a gardé un très mauvais souvenir. Et que ce que je regrette, c'est qu'on ait eu une stratégie qui a essentiellement consisté à miser sur le PCR et on n'a pas cherché à diversifier les types de tests. Or, le PCR, c'est en effet quelque chose, c'est une barrière. Il y a une barrière physique, c'est pas agréable à faire. Et deux, c'est long à analyser. Et on aurait probablement pu avoir une stratégie d'optimisation des tests qu'on n'a pas eu. Et de ce point de vue, je crois qu'Olivier Véran emporte la responsabilité plus ou moins personnelle. On avait vu cet été qu'il s'était un peu fâché contre la PHP, qu'il ne manifestait pas beaucoup de diligence pour promouvoir les tests salivaires. On n'a pas avancé sur les tests salivaires. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une machine sanitaire en France qui n'est pas sous contrôle. Oui. Et qui n'est plus orientable en termes d'intérêt général.
Mais on ne comprend pas, effectivement, il y a des choses qui vont devoir être expliquées sur le rôle aussi de Pasteur qui a bloqué un certain nombre de tests et d'essais, apparemment.
Attend toujours les autorisations de mise sur le marché d'un certain nombre de tests. En tout cas, une fois de plus, la flexibilité administrative française n'aura pas brillé par son efficacité.
Ouais, je vous propose d'écouter la petite phrase d'Olivier Véran. Vous avez 2 heures pour... commenter.
Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts.
Voilà, les cas sujet contacts de philo. Donc, voilà, mais quand vous êtes cas contact, on vous demande quand même de faire un test, de vous isoler. Et comme il faut 10 jours, on est sur un truc complètement aberrant en matière de...
Alors que l'isolement maintenant est repassé à 7 jours.
Oui, mais, voilà,
on attend le test, tout à fait, qui arrive après.
Et en fonction des endroits, parce que moi j'ai eu quelqu'un qui a eu son résultat en 2 jours, donc je crois que ça dépend vraiment des endroits.
Oui, et n'oublions pas aussi, à propos des tests, qu'on a retardé la mise en place aussi des tests aux frontières, par exemple aux aéroports, alors qu'on demandait aux Français de rester très prudents, etc., et on ne faisait pas des tests comme ça, on ne sait pas encore pourquoi, parce qu'on le savait depuis le début que c'était nécessaire et on ne l'a pas fait jusqu'à cet été pratiquement.
Thomas Porte.
Moi j'ai un peu l'impression depuis quelques jours, quelques semaines, que l'alpha et l'oméga de la politique de ce gouvernement, c'est de dire on fait tant de milliers ou tant de millions de tests par semaine. Et voilà, donc on dit on a testé 1 million de personnes cette semaine, et voilà, mais ce n'est pas la solution au problème. Effectivement, aujourd'hui l'appareil de santé, il devrait répondre à une question d'intérêt général, et on n'est pas en capacité de le faire, et c'est quand même problématique. Et je crois qu'il faudra vraiment, une fois qu'on sera sorti de cette crise, se poser la question de la santé publique en France, de quel outil, au service de qui, et comment on le gère, avec quels moyens. Ça, c'est un véritable problème.
Ouais. Bon, voilà, on a fini. Merci à vous. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là. Très bon week-end.
Merci.
Soyez prudents. Et on se retrouve lundi pour d'autres informations. Très bon week-end sur Sud Radio.